Ces instants bénis dans ta présence. Aide-nous encore maintenant à recevoir ce que tu veux nous dire. Tu as toujours une parole de grâce et de vérité à nous communiquer, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Réponds selon les besoins cachés. Merci, Seigneur. Et que tout te glorifie encore. car toi seul es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Combien elle nous fait du bien, n'est-ce pas vrai? Combien elle nous fait du bien, cette présence. Alléluia. Merci, Seigneur. Sa parole aussi nous fait du bien. Et nous allons continuer un peu nos méditations sur ce que nous avons médité pendant ce week-end ensemble. Il y a encore quelques pensées importantes sur les passages que nous avons médités. Nous allons reprendre, si vous voulez bien, dans 2 Timothée, chapitre 4. Nous avons commencé à méditer, pour ceux qui étaient là, donc les premiers versets. Cette fois, nous allons méditer les derniers versets. Mais nous allons relire ce passage, toujours pour bien nous remettre dans le contexte. Paul dit donc à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous savons que nous sommes dans cette période-là maintenant. Maintenant. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et nous allons méditer cette dernière partie, le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il y a là 5 mots sur lesquels nous allons nous arrêter, comme on l'a fait pendant ce week-end. Nous allons nous attarder et regarder avec plus d'attention ce que ces mots veulent dire, car quand nous lisons en vitesse, on n'en retire pas toujours le message que Dieu voudrait nous donner. Et vous le remarquez, après avoir décrit la situation, l'apôtre dit maintenant « Mets-toi ». Donc il s'adresse vraiment à lui, comme pour lui dire « Maintenant, voilà la condition dans les derniers temps, mais voilà maintenant la position que tu dois avoir ». Il l'exhorte donc personnellement. Et nous allons, si vous voulez, mettre comme titre à ce message « Comment être utilisé par le Seigneur dans les derniers temps ?»« Mais toi !» Vous voyez donc, le Seigneur s'adresse à la personne, Paul à Timothée. Dieu maintenant s'adresse à chacun d'entre nous. « Mais toi !» Quelle doit donc être mon attitude ? Comment donc être utilisé par le Seigneur dans les derniers temps? Alors bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses, mais nous allons nous rester auprès du texte et voir ces cinq mots, la signification de ces cinq mots qui sont importants pour nous. Alors soulignez, si vous voulez, le premier mot, mais toi sois sobre. Soulignez sobre. Sobre. Que veut dire donc sobre? Dans le texte grec, ce mot veut dire ne sois pas intoxiqué comme les autres. Ne sois pas intoxiqué comme les autres. Et quel était ce contexte des autres qui sont intoxiqués? Pourquoi Paul dit-il cela? Parce qu'il est entouré de toutes sortes d'étranges doctrines et expériences. Partout, il y a de nouvelles manifestations incroyables et tout le monde y croit, sauf Timothée. Alors il est comme seul au travers dans ce contexte-là. Et c'est bien exactement la situation aujourd'hui. Ne sois pas intoxiqué comme les autres. Et il y a ce mot « sobre » veut aussi dire « sois vigilant et conscient de tout ce qui se passe autour de toi, mais ne sois pas influencé par tout ce que tu vois ou entends. » Voilà ce que Paul voulait dire à Timothée. Il commençait à voir et entendre beaucoup de choses, car les fausses doctrines, les fausses expériences ne datent pas d'aujourd'hui, mes amis. Du temps de l'apôtre, ça commençait déjà. La situation s'est aggravée. Mais déjà à ce moment-là, ça pénétrait dans l'Église et nous voyons que l'apôtre, poussé par le Saint-Esprit, ne pouvait pas rester comme cela. Il fallait qu'il exhorte les chrétiens et leur donne des paroles précises. Comment donc se comporter dans ces temps-là? Et il lui dit, donc ne sois pas influencé par ce que tu vois et entends. C'est ça, être sobre. Cette sobriété est là. Ne sois pas intoxiqué. Et combien de chrétiens, malheureusement, nous connaissons des chrétiens, dès qu'ils entendent quelque chose de nouveau, quelque part, même si ça vient d'Amérique, même si ça vient de je ne sais où, ils le savent tout de suite. Et non seulement ils le savent tout de suite, mais ils acceptent tout de suite. Et c'est là la tragédie. Quand vous entendez quelque chose de nouveau, quelle est votre réaction première? Vous savez, c'est très important. Quelle est votre réaction? On vous raconte quelque chose d'extraordinaire, quelle est votre première réaction? Malheureusement, certains, ah oui, extraordinaire, mais c'est formidable ça. Vous voyez, alors tout de suite, certains, sans contrôler, sans vérifier, sans rien du tout, ils acceptent. Et c'est là, cette attitude-là manque de sobriété. Nous voyons que cette personne n'est pas sobre. Elle ne se contrôle pas. Elle manque de sobriété. Elle est influencée par tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle voit. C'est le message du Seigneur. Si nous voulons être utilisés dans ces temps de la fin, il nous faut bien sûr ne pas être intoxiqués par tout ce que nous voyons et entendons. Amen. Si nous sommes intoxiqués, contaminés, comment pouvons-nous aider les autres? Nous ne le pourrons jamais. Ainsi, c'est comme si l'apôtre disait, tu vas entendre beaucoup de choses, tu vas voir beaucoup de choses. Et les gens ici, je notais, tout le monde réclame toujours plus de nouvelles choses, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est un peu... Ce sera la mentalité des chrétiens dans les derniers temps, on l'a vu déjà hier, mais c'est là, ces chrétiens qui veulent toujours plus. En fait, on veut toujours plus de Dieu, mais en réalité, c'est Dieu qui veut toujours plus de nous. Voilà la réponse. Tu réclames plus de Dieu, Mais sais-tu que c'est Dieu qui réclame plus de toi? Tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, tu as maintenant la puissance de Dieu qui se manifeste au fur et à mesure que tu obéis, au fur et à mesure que tu te consacres, que tu te donnes, que tu t'abandonnes, le Saint-Esprit sera plus libre d'agir. Mais c'est une grave erreur de dire « Donne-moi plus de puissance, Seigneur », alors que Dieu nous l'a donné. Voyez-vous comme c'est une prière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, vous l'avez remarqué dans ces milieux-là, je m'excuse de continuer, on va finir un peu comme ça dans cette convention, ce sera une convention où vraiment on aura pu dire en tout cas l'essentiel dans ce domaine-là. Et je crois que certainement on en avait tous besoin. Dans ces milieux-là, on réclame toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est là quelque chose qui fait un peu frémir, parce que la seule pensée, c'est plus, plus. Et vous savez, quelque chose qui me surprend, c'est les gens qui sont soi-disant bénis dans ces milieux, qui tombent par terre, qui rugissent, qui font n'importe quoi. Mais n'importe qui tombe par terre. Vous l'avez remarqué? N'importe qui. Le sanctifié, le non-sanctifié, le païen, n'importe qui. C'est comme si, finalement, le Saint-Esprit disait, ça fait rien, puis qui que vous soyez, je vais vous toucher, n'importe qui. Comme si il n'y avait pas de condition pour marcher avec Dieu. Comme si la sanctification, voyez-vous, n'existait pas. Comme si Dieu est prêt à bénir celui qui est dans le péché, comme celui qui n'est pas dans le péché, c'est la même chose. Dieu accorde la même chose. Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, là? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Parce que quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, le Saint-Esprit demande plus de nous. Amen. Nous avons reçu sa grâce. Et dans les actes, nous le voyons, une fois qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils n'ont jamais redemandé la puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez ce passage où ils ont redemandé la puissance, montrez-le-moi, je ne le trouve pas. À un moment donné, quand ils étaient persécutés dans Acte 4, vous vous souvenez? La prière des premiers chrétiens. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main, fais quelque chose, mais tu vois, on nous persécute, mais ceci et cela. Mais à aucun moment donné, ils ont dit, Seigneur, donne-nous ta puissance. Ils ont simplement dit, étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse encore des prodiges et des miracles. Et ils étaient décidés à prêcher la parole. Et après, qu'est-ce qu'il est dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ne l'ont même pas demandé. Ils furent remplis, donc ils furent renouvelés. Et le lieu où ils étaient trembla. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous? Ils ont été renouvelés. Être renouvelé, c'est bien, justement, dans la prière. Le renouvellement, c'est important. Dans la prière, dans l'adoration, c'est ce que nous faisons. Plus nous louons, plus nous adorons. Ça, c'est l'obéissance du chrétien pour rester rempli du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous montre comment nous devons rester remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas en tombant par terre, ce n'est pas en faisant n'importe quoi qu'on sera rempli du Saint-Esprit. C'est la prière, c'est l'obéissance, c'est l'adoration, c'est la consécration. Tout cela, mais est-ce qu'on en parle? Vous n'en entendez pas parler. Venez, 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 qui que vous soyez, venez, venez, venez. Et si vous ne venez pas, on va même vous chercher. On va même dans les rangs. On va même vous chercher. Vous n'en voulez pas, on la pose quand même les mains sur vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de magique qui est là. Parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose. Mais mes amis, quand on a quelque chose du Seigneur, est-ce que vous croyez qu'on peut jouer avec ces choses-là? Est-ce que vous croyez qu'on peut forcer ces choses-là? Seul le Seigneur donne. Et il y a des conditions pour cela. Amen. Et la condition, c'est la sobriété. Ne soyons pas intoxiqués. Ce n'est pas plus du Saint-Esprit qu'il nous faut. C'est le Saint-Esprit qui veut plus de nous, mes amis. Si nous avons compris cela, alors nous n'allons pas perdre notre temps. Seigneur, plus de puissance, plus de... Je lisais un article là en anglais. C'est ça, dans tous les machins. C'est leur leitmotiv. Plus, Seigneur, plus, Seigneur. Vous l'avez sûrement entendu. Plus, plus, plus quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est en contradiction. Et si vous demandez, est-ce que vous êtes baptisé dans un... Oui, oui, ils sont baptisés. C'est quoi alors? Voyez-vous? C'est un manque de sobriété. On est comme intoxiqué par les choses que nous voyons et entendons. Ainsi, Dieu vous demande et me demande d'être sobre, de ne pas être facilement influençable. Et de savoir surtout, vous, chacun, moi, chaque chrétien, comment rester rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas en faisant ces choses-là, mes amis. Ces personnes-là risquent d'avoir de graves problèmes. Combien de témoignages on a déjà ? De personnes, de jeunes qui sont allés dans ces milieux, qui apparemment ont été aux anges. Mais quelques jours après, c'était les coups de téléphone à tel frère, à telle sœur. Priez pour moi, je ne sais plus où j'en suis. Il y a des bruits dans ma maison, il y a des choses à qui je n'avais pas avant, des choses effroyables. Mes amis, pour être sobre, rester sobre, la prière est importante. La louange, l'adoration, comme nous le faisons, c'est important. Et, j'allais dire, surtout, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et il prêchait la parole de Dieu avec assurance. Là où la parole de Dieu est prêchée avec assurance, dans son intégrité, le Saint-Esprit est là. Laissez-moi dire une chose, quand cette parole est négligée, frelatée, tordue, perverti, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. Car le Saint-Esprit n'est là. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le Saint-Esprit. Alors comment le Saint-Esprit maintenant, qui lui a inspiré des paroles, ou par exemple, il dit oui dans un domaine, comment maintenant peut-il dire non à ce qu'il a dit oui avant? Ou non à ce qu'il dit oui maintenant? Comment cela? Ce n'est pas possible. C'est donc là quelque chose que nous devons tous réaliser. Si nous voulons rester remplis du Saint-Esprit, nous devons être continuellement remplis de la parole de Dieu. Voilà une vérité importante. Et je le vois moi-même, mes amis, dans ma propre vie spirituelle et dans le ministère. Quand je ne suis pas vraiment nourri de la parole, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme quelque chose qui me manque. Mais quand mon esprit, mes pensées sont imprégnées de la parole, alors je vous assure, vous avez l'impression que quelque chose est là. Le Saint-Esprit est vraiment là pour confirmer cette parole. Et vraiment, Dieu est là pour confirmer sa parole, non pas pour confirmer nos idées bizarres. D'où l'importance. Pour rester sobre, vous devez, je dois être rempli de la parole de Dieu. Amen. Mais le problème avec beaucoup de chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils acceptent n'importe quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître le faux? Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai. Comment voulez-vous reconnaître le faux quand vous ne connaissez pas le vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si vous ne connaissez pas vraiment le vrai, quand le faux vous sera présenté, vous direz, mais c'est formidable, c'est toujours des versets bibliques, c'est toujours des choses comme ça, vous dites, mais c'est extraordinaire. Et vous ne vous rendez pas compte, on est en train de vous donner un faux billet. Et si vous commencez à travailler avec des faux billets, vous allez finir en prison, je vous assure, ça va vous coûter cher. Hein? Ouais, sur les billets, c'est bien écrit, celui qui falsifie tout ça, les faux billets, commencez à travailler, à aller un peu loin là-dedans, ça va vous coûter cher. Ça peut nous coûter cher humainement, mais ce qui peut nous coûter cher, c'est spirituellement le plus. Un désastre spirituel. Soyons sobres. La sobriété dans nos pensées nous vient de la parole de Dieu. Amen. Le chrétien qui sera rempli de la parole, c'est celui-là qui sera rempli du Saint-Esprit. Et qui débordera. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis rempli du Saint-Esprit, et que vous ignorez sa parole, et que vous tordez les Écritures. C'est un mensonge, mon ami, c'est un mensonge. Quelqu'un dit, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il raconte? C'est contraire à la parole. Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Alors, mais oui, mais Dieu m'a dit, vous savez ces gens-là, mais Dieu m'a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit. Non, 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 le Seigneur ne dit jamais rien n'est pas conforme à sa parole. Amen. C'est ça la sobriété. Ne sois pas intoxiqué, ne sois pas influencé. Il est bien dit dans les Éphésiens, ceux qui seront emportés à tout vent de doctrine. Voilà, voilà le passage qui va justement bien avec ce que nous disons. Emportés à tout vent de doctrine. On accepte ces hérésies maintenant. Ceux qui acceptent ces hérésies maintenant, sans voir l'erreur, vous savez ce qui va se passer, comme je l'ai dit hier ? Ils accepteront les prochaines hérésies qui arrivent. Et les erreurs et les hérésies iront de plus en plus, seront de plus en plus graves et dangereuses. Alors, comment rester rempli du Saint-Esprit, mes chers amis ? Rempli de la parole de Dieu, un esprit de prière, un esprit de consécration, un esprit de louange, d'adoration, c'est important, et un esprit de pardon aussi. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit véritablement, vous avez des ennemis. Laissez-moi vous dire une chose, il y a des jaloux, les jaloux sont là. Et ils vous persécuteront, ils vous calomnieront. Ils diront tout un tas de fausses choses sur vous. Ils ne viendront jamais vous voir, mais ils aiment bien entendre les rumeurs qui les arrangent. Ah oui, c'est vrai, ça. Ils ne vérifient jamais ce qu'ils entendent. Mais c'est là notre lot, et le lot de tous ceux qui veulent rester fidèles. Tu dois aussi pardonner. Pardonner. C'est ainsi que tu resteras rempli du Saint-Esprit. Oui, comme on a prié ce matin. Seigneur, purifie. Nous avons constamment besoin de cette purification. Cette parole dans l'Apocalypse, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est sanctifié se sanctifie. Oui, c'est pas seulement, il y a un an, deux ans, j'étais sanctifié, je veux dire, j'étais en règle avec Dieu, et puis maintenant je n'ai plus rien à faire. Non, c'est chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, nous en avons besoin. Amen. Et si nous le faisons, ça prouve une chose, c'est que justement, nous sommes sensibles au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un esprit saint. Et il ne nous fait pas faire n'importe quoi, le Saint-Esprit. Quand on met sur le compte du Saint-Esprit toutes ces abominations, j'allais dire, cela déshonore Dieu. Gravement. Mais l'Esprit de Dieu est un Esprit Saint qui veut toujours nous conduire à l'image parfaite de Jésus. Amen. Amen. Sois sobre. Ne sois pas intoxiqué comme les autres. On ne réfléchit plus. On accepte n'importe quoi. Sois sobre. Que la parole soit ton guide. Deuxième mot. Sois sobre en toute chose, supporte les souffrances. Supporte. Soulignez ce mot, supporte. Dans le grec, il y a la pensée « sois prêt à passer par l'épreuve ». Supporte. Sois prêt à passer par l'épreuve. Et Timothée était prêt. Pourquoi ? Timothée était prêt parce qu'il avait été devant le trône du roi pour entendre ce qu'il avait à dire. Paul veut ainsi lui dire, tu n'as pas besoin de l'opinion des autres, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres parce que tu as l'approbation de Dieu dans ta vie. Amen. C'est ça le test. C'est rechercher son approbation. Je t'en conjure devant Dieu. Le fait de réaliser que nous sommes dans la présence de Dieu et que nous avons fait le serment de plaire au Seigneur et d'annoncer seulement sa parole. C'est cela qui est le test. Et qui nous gardera dans ces temps de la fin. Recherche son approbation, et non pas l'approbation des hommes. Là aussi, c'est un test, mes amis. Et beaucoup de pasteurs et de chrétiens ne passent pas ce test. malheureusement. Et c'est pourquoi on tombe dans toutes ces hérésies et ces manifestations démoniaques bien souvent. Mon frère, ma sœur, supporte les souffrances. Ce ne sera pas facile. Mais ce qui compte dans ta vie, ce n'est pas tellement le succès, mais l'approbation de Dieu, ta fidélité au Dieu veut mettre en toi, qu'il y ait toujours en toi ce désir de rechercher son approbation. Et va souvent au pied du trône de Dieu, va souvent. Il ne faut pas seulement y aller une fois pour entendre sa parole et sortir, annoncer, mais chaque jour, viens au pied du trône de la grâce pour être secouru dans tes besoins. Ne reste pas loin du trône, viens, c'est au pied du trône que tu seras secouru, que tu goûteras son approbation, que tu auras sa pensée par sa parole. Et si tu sors, peu importe désormais ce que les hommes disent, toi tu as la parole de Dieu dans ta bouche et dans ton cœur. Peu importe la désapprobation des hommes, toi, tu as l'approbation de Dieu. Supporte les souffrances, Timothée. Il peut le faire parce qu'il va souvent au pied du trône rechercher son approbation avant tout. Mes amis, venons constamment au pied du trône et n'ayons qu'un désir, ne recherchez que son opinion, c'est-à-dire sa parole et son approbation. Amen. Ne soyons pas esclaves de l'approbation des hommes. Cherchons à plaire au Seigneur. Et il nous aidera, il nous gardera et il nous conduira. Soulignons un troisième mot. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Soulignez le mot évangéliste maintenant. Le mot évangéliste, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans le grec, ce mot veut dire oracle. Oracle. Cela signifiait que la principale responsabilité du serviteur de Dieu est d'être un oracle pour Dieu. Nous sommes appelés à être les oracles de Dieu. Alors qu'est-ce que... Bien sûr, la définition du mot oracle est importante ici maintenant. Une définition technique du mot oracle est celle-ci. C'est premièrement, donc dans la pensée du contexte de ce temps-là, un lieu où les dieux étaient consultés. Un lieu où les dieux étaient consultés. Hein, c'est toujours en rapport avec Dieu et sa parole. Oui, toujours. Là, c'est les faux dieux, bien sûr, nous le savons. Et deuxièmement, c'était une connaissance surnaturelle communiquée au travers de quelqu'un. Autrement dit, c'est... Alors après, la pensée est celle-ci. Un oracle est donc quelqu'un qui est un canal pour communiquer la parole de Dieu. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Autrement dit, sois le canal de Dieu, personne d'autre, pas d'un mouvement, pas d'une église, pas d'une œuvre quelconque. Sois le canal de Dieu. Pour communiquer quoi? Les dernières expériences? Les dernières révélations? Les dernières prophéties de tel prophète? Le dernier enseignement de tel homme, de grand théologien? Non. C'est quelqu'un qui est le canal de Dieu pour communiquer la parole de Dieu. Alléluia. Et en cela, Paul voulait dire à Timothée, eh bien, il faut que tu sois le canal de Dieu. De Dieu, et sa parole. Voilà ce que Dieu te demande. Et en ce sens-là, mes amis, tous les serviteurs de Dieu sont des évangélistes, sont en somme des oracles de Dieu. Et non seulement les serviteurs de Dieu, mais tous les chrétiens. Nous devons être les oracles de Dieu. Amen. Nous devons être des canaux que Dieu utilise pour communiquer sa parole, mais dans toute sa pureté et dans toute sa simplicité. Amen. C'est là donc un point important. Si nous voulons être utilisés par le Seigneur dans ces temps de la fin, il nous faut, voyons, on revient toujours à cette parole. Seigneur, je veux être maintenant un canal pour que cette parole puisse être communiquée. Amen. Ça, c'est un point important. En somme, un oracle, c'est donc quelqu'un qui est un canal de Dieu pour communiquer les paroles de Dieu. En langage moderne, c'est un porte-parole. Un porte-parole. Vous savez, souvent on voit à la télé, le porte-parole du gouvernement vient pour dire ce que le gouvernement a décidé. Est-ce que vous avez déjà vu un porte-parole qui vient, qui commence à dire ce que le gouvernement a décidé au Conseil des ministres et tout ça? Il dit voilà ce que le Conseil des ministres a décidé. Mais moi, je vous fais une parenthèse maintenant. Ça, je ne suis pas tellement d'accord sur ce point-là. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et il continue. Là, il y a un quatrième point. Voilà ce que le gouvernement a décidé. Mais sur ce point-là, moi, j'ai mes idées à moi. Et si vous le voulez, on en parlera plus tard. Vous croyez qu'il va rester longtemps porte-parole, celui-là? Hein? Il a signé, j'allais dire, son arrêt de mort. Je lui dis, toi, tu rentres vite à la maison. Il n'est pas un porte-parole du gouvernement. Il est en train de se prêcher lui-même. Et voyez-vous, quand nous apportons des choses aux autres qui ne sont pas conformes à la parole, nous nous prêchons nous-mêmes, nous déshonorons Dieu, le gouvernement de Dieu, et nous apportons ce que nous voulons, nos petites parenthèses à nous, et nous pensons que ça peut continuer. Voyez-vous ? On pense que ça peut continuer. Mais est-ce que ça continue avec les hommes? Ça ne continuera pas. Quelqu'un qui fait cela, c'est fini. Il ne peut plus avoir ce ministère, c'est terminé. Mais au contraire, un vrai porte-parole. Il n'y a aucun commentaire personnel. Vous êtes d'accord? Voici ce que le gouvernement a décidé au Conseil des ministres. 1, 2, 3, 4, 5. Terminé. Et après, mesdames et messieurs, au revoir. Terminé. Il a fait son travail. C'est tout ce qu'on lui demandait. Un porte-parole. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce que nous devons faire. Que disons-nous? Que faisons-nous? Que vivons-nous? C'est cette parole dont ils ont besoin d'entendre. Et c'est à cette parole que nous devons vraiment nous attacher. Plus que jamais. Amen. Et vous pouvez être ce porte-parole. Et le Seigneur dit qu'il confirme sa parole par les miracles. Sa parole. Et c'est vrai cela. Il le confirme comme il veut, mais il confirme sa parole. Et sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir... jamais retourné. Oui, c'est ça. À lui sans avoir accompli son effet. Jamais. C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est la parole de Dieu. Donc ne perdons pas notre temps à répandre, à dire des choses qui ne sont pas selon la parole. Nous perdons notre temps. Et s'il y a des confirmations, laissez-moi vous dire qu'il faut mettre ça aussi entre parenthèses, ou entre guillemets, ces confirmations ne viennent pas de Dieu. Dieu ne confirme que sa parole et sa parole seule. C'est cela, fais-le dans l'évangéliste. Mes amis, il n'y a que cette parole qui dit la vérité, n'est-ce pas vrai? Dans ce monde de mensonges, de tromperies, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Mes amis, c'est un point important. Quand on veut, par exemple, mélanger maintenant à la parole la psychologie moderne, je pense à cela. La Combien même des pasteurs qui prêchent l'évangile, soi-disant, et puis avec la psychologie. Ah, il faut, enfin, je ne sais pas, s'aimer soi-même, s'apprécier soi-même, et puis alors, si tu as des problèmes, il faut descendre, il faut aller jusqu'à ton enfance, et puis souvent, c'est toujours la faute du papa, de la maman, tu as tel problème, ah oui, ça c'est le caractère de ton père, tu as tel problème, ça c'est le caractère de ta mère, et tout ça, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Savez-vous que cette psychologie d'où elle vient? D'hommes païens, c'est à cela que je voulais en venir. D'hommes païens, du Freud et du Jung. Jung, c'était un spirit. Il le trafiquait avec les puissances des ténèbres. Et on amène son enseignement de la guérison intérieure dans l'Église maintenant. Et Freud, qui était un païen. Et on parle de lui comme de ses vérités psychologiques, enfin, entre guillemets, de ses choses psychologiques, comme si c'était l'Évangile. Comme si c'était l'Évangile. Et on dit même que ces hommes ont révélé, apporté à l'Église des choses que nous ne connaissons pas sur le conscient, le subconscient. C'est pour ça qu'ils sont complètement inconscients. Ils sont inconscients de tout ce qu'ils disent. Et ce sont des vérités, entre guillemets toujours, des doctrines d'hommes païens. Et il y en a qui annoncent cela. Et même dans certains lieux maintenant, un pasteur qui n'a pas fait de la psychologie n'est pas capable même d'exhorter les chrétiens et d'aller régler certains problèmes en profondeur. Il en est incapable. Il n'est pas qualifié. Vous vous rendez compte? Comme si la parole de Dieu n'était plus suffisante. Quelle erreur, quel mensonge, quelle illusion, quelle séduction. Cette parole est là. Elle est pleinement suffisante pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Amen. Nos premiers chrétiens, nos premiers frères et sœurs n'avaient pas besoin de tout cela. Et ils ont vécu une vie chrétienne victorieuse. Amen. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole de Dieu avec eux. Amen. Et plus on aime la parole, plus on prêche cette parole, plus on vit cette parole, plus le Saint-Esprit nous aide à accomplir cette parole qui est esprit et vie. Alléluia. Alors soyons des porte-parole du gouvernement céleste. Amen. Alors ne faites pas vos petits commentaires à côté, parce que là-haut, le Seigneur, il va vous tirer les oreilles, laissez-moi vous dire. Tous vos petits commentaires, il va dire, ah oui, tu parlais bien de temps en temps, mais pourquoi tu as fait cette petite parenthèse là? Tu en fais souvent des parenthèses. Et les petits guillemets, là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Pourquoi tu voulais dire ça? C'était quoi? Tu voulais faire quoi là? C'était toi, tu voulais prêcher, tu voulais montrer que tu étais quelqu'un, c'est ça? C'est quoi? Un porte-parole est là. Il ne fait pas de sentiments, il est là pour refléter exactement la pensée du gouvernement. Amen. Parce que le gouvernement sera jugé d'après les porte-paroles. C'est d'accord avec moi? Attention. C'est important. On a l'impression que ce n'est pas grand-chose être un porte-parole. Mais c'est important. Parce qu'on juge le gouvernement à ce porte-parole, d'après ce porte-parole. Alors, on nous juge aussi, d'après ce que nous disons. Et voilà pourquoi le nom du Seigneur peut être vraiment blasphémé ou honoré si nous faisons ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors, allons un peu plus loin. Quatrièmement, remplis bien ton ministère. Soulignez bien ce mot « rempli » maintenant, « rempli ». Rempli bien ton ministère. Dans le grec, ce mot est utilisé pour exprimer la plénitude ou l'achèvement. Ce mot grec veut dire plénitude ou achèvement. Autrement dit, ça veut dire aussi, Paul voulait lui dire, remplis bien ton ministère, développe ton ministère. Travaille de mieux en mieux pour que ton ministère s'améliore constamment. Et le contexte des paroles de Paul est la prédication, l'enseignement de la doctrine. Donc, la pensée ici, remplis bien ton ministère, c'est que Timothée devait réaliser que le ministère, c'est tout un cheminement. Rien ne se fait au hasard. Il n'y a pas de clé magique à avoir. Venez ici, je vais vous imposer les mains, vous allez recevoir un ministère, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Dites-moi, c'est pas ce qu'on voit. Rapprochez-vous, rapprochez-vous tous. Qui est-ce qui veut un ministère ici? Qui est-ce qui veut un ministère de miracle? C'est toujours un ministère de miracle. On dit jamais un ministère d'humilité et de servir au temps. Ça n'existe pas, ils connaissent pas. De verser de l'eau, là. Le ministère, tu vois, il y a un ministère, il faudrait que tout le temps tu nettoies le dimanche matin. Il faut que tu nettoies un petit peu, là. C'est un beau ministère. Personne ne s'approche de ce ministère. Et qu'est-ce qu'on fait? On distribue des ministères comme ça? Approchez-vous. Maintenant, ça y est, tu as le ministère de miracle. Ça y est, vas-y. Ouais. Enseignement, ça y est, tu l'as maintenant. Ça y est, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce qui communique le ministère? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui les communique? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut prier, imposer les mains. Je ne suis pas d'accord, pas contre. Mais attention, ce n'est pas les hommes qui communiquent en ministère. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que, croyez, écoutez-moi bien, c'est très important cela. Parce que si vous avez reçu votre ministère d'un homme ou d'une église, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez esclave de ces personnes. Parce que le jour où eux disent attention là, là tu commences à dire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Si tu continues, tu prends la porte. Et c'est ça? C'est pas vrai? Si tu as reçu ton ministère d'un homme ou d'un mouvement, un jour, tu vas en souper, tu verras bien. Autant ils t'ont réjoui, autant ils te rejetteront.
C'est vrai. C'est très vrai.
Remplis bien ton ministère. Dans le ministère, il y a un développement. Et ça commence toujours par les petites choses. Amen. Sois fidèle dans les petites choses et je te confierai des plus grandes. Voilà. Le ministère, ça prend du temps, mes amis. C'est les champignons qui poussent en une nuit ou deux. Si tu veux être un chêne, ça met combien de temps un chêne? Ça met du temps. Mais alors quand c'est là. Amen. Alors bien sûr, le Seigneur ne va pas nous faire attendre 100 ans pour avoir un ministère. Sinon, on n'aurait jamais rien. Mais la leçon est quoi? C'est le temps. C'est la profondeur. Si tu vas ministère tout de suite pour montrer que tu as un ministère, alors tu ne remplis pas bien ton ministère. Développe ce ministère, fais le maximum. Oui, c'est encore une fois une société de facilité. On veut un ministère sans payer le prix. On veut qu'on vienne nous prier, nous imposer les mains. Et en un instant, allez, il faut retomber au moins 50 fois pour avoir un ministère. Allez, encore. Mais on veut tout de suite. Mais soi-même, on ne veut pas faire de sacrifice. L'obéissance, le renoncement. Ah non, ça c'est pas pour. C'est pour les autres, c'est pour les juifs, ça c'est pas. C'est pour eux. Non. Alors on en est là. On veut des ministères. Et Paul dit, remplis bien. Tu dois le développer. Un ministère, ça se développe. Ça prend du temps. Et Dieu commence toujours les choses petitement. Amen. Vous qui cherchez un ministère, commencez petitement. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grands. Et quand Dieu vous confiera des grandes, votre cœur ne va pas s'enorgueillir. Parce qu'au travers de toutes ces petites choses, il vous aura déjà brisé, et brisé, et brisé, et brisé. C'est alors seulement qu'il pourra vous confier les grandes choses. Car vous avez été littéralement laminé, brisé. Et c'est ce que Dieu veut, mes amis. Ça prend du temps. Si tu es trop pressé, tu n'auras jamais de ministère. Dieu ne pourra jamais t'utiliser dans la fin des temps, si tu es trop pressé. Remplis bien ton ministère, développe-le, fais le maximum. Tu sens que Dieu t'a donné ceci ou cela, eh bien fais le maximum pour développer ce ministère. Ne cours pas à gauche à droite ton temps pour essayer Non, toi, c'est toi qui dois le développer par la parole, l'obéissance, enfin tout ce que Dieu te demande, par les bonnes lectures parfois, pour t'informer aussi. Mais développe cela. N'attends pas, Seigneur, je veux un ministère, et que tu attendes comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Remplis bien, développe-le. Et ce développement est permanent, jusqu'à la fin. À aucun moment on peut dire, maintenant ça y est, c'est fait. Non. quand un ministère est de Dieu, alors il grandit continuellement. Continuellement. Amen. Et si tu as reçu un ministère des hommes, ces hommes t'arrêteront. Mais si tu as reçu un ministère de Dieu, personne ne pourra t'arrêter. Même si les hommes te rejettent, si c'est Dieu qui t'a appelé, personne ne pourra t'arrêter. À condition que tu te livres au Seigneur, que tu ne craignes pas l'homme, que tu ne sois pas intoxiqué toi-même à faire toutes sortes de choses charnelles, à réagir charnellement, à perdre les pédales, comme on dit. Vous allez m'entendre maintenant. Attends. Non. Là, tu perds les pédales. Là, tu commences déjà un peu. Tu es intoxiqué déjà là. Non, c'est pas comme ça. Sois sobre. Sobriété. Réagis comme Dieu le veut. Et Dieu t'utilisera. Amen. Bon, allez, j'en termine maintenant. Remplis bien ton ministère. Soulignez bien maintenant ce mot-là, ministère. Ce mot ministère, dans le grec, c'est un mot qui parle de diaconade. Le vrai ministère, donc, veut dire servir. Voilà. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ce ministère de serviteur que je t'accorde. Amen. C'est cela, une pensée importante. Nous ne sommes pas appelés à devenir des stars ou des vedettes, mais des serviteurs. Et dans tous ces milieux un peu excentriques, on joue à la vedette maintenant. C'est la vedette. On suit la dernière vedette. Et ce Rodney Ward Brown dont on a parlé hier, c'est la dernière vedette. Mais il y en a une autre qui va venir supplanter celui-là. Et c'est ainsi. Dieu ne nous a pas appelés à devenir des stars ou des vedettes, mais des serviteurs. Si au fond de ton cœur, ton désir est d'être vu, acclamé, alors tu perds ton temps. Et même si tu as du succès aux yeux des hommes, alors devant Dieu, ce sera autre chose. Ce sera la réprobation, ne l'oublie pas. Cela va bien bon et fidèle, serviteur. Un esprit de serviteur, voilà ce que Dieu veut. Un serviteur, un vrai serviteur, c'est celui qui sert, et non qui veut être servi. Jésus lui-même a dit, je suis venu, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Alors voilà, si tu veux être un bon serviteur, dans ta pensée, il n'est pas question d'être servi, mais de servir. Et combien ont la conception du ministère comme ça, d'être servi? Ce n'est pas ça le vrai ministère. Deuxièmement, il ne faut pas aussi se servir des autres. Servir les autres, ce n'est pas se servir des autres. Il y a beaucoup de ministères qui se servent des autres pour se faire un nom, une réputation, un ministère. Ce n'est pas ça le vrai ministère. C'est servir, c'est pas se servir, c'est pas être servi. N'utilise pas les autres pour te faire un nom. Finalement, ce n'est pas l'autre qui t'intéresse, c'est ce qu'il a pour toi, pour tes intérêts à toi, tes projets à toi. L'autre, c'est comme un objet que tu utilises pour toi-même. Et quand tu seras dans le malheur, on te laissera tomber comme une vieille chaussette. Et je termine, servir, ce n'est pas asservir. Asservir. C'est quoi asservir? C'est dominer. Et il y a beaucoup de serviteurs qui asservissent les autres. Non, on n'est pas là pour dominer sur le peuple de Dieu. On est là pour le servir. Amen. Et je termine par cette pensée importante. Nous devons être le serviteur de tous, mais l'esclave de personne. Très important. Servir les autres, ça ne veut pas dire être esclave des autres. Servir, c'est encore toujours dans la pensée de l'apôtre, de celui qui est le canal de Dieu. Il sert en communiquant la parole de Dieu. Non pas ce que les autres aiment entendre, mais ce que les autres doivent entendre. Voilà le vrai serviteur. Il apporte ce qu'ils doivent entendre. Que ça plaise ou pas. Voilà le test d'un authentique serviteur de Dieu. Non pas ce qui plaît, mais ce dont ils ont besoin. Que le Seigneur nous aide à être dans cet esprit-là. Et nous serons certainement utilisés par le Seigneur dans ces temps de la fin. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Prions juste quelques instants maintenant. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci encore pour ces vérités qui nous libèrent. Vraiment, nous voyons que ta parole libère. Et elle nous fait du bien. Elle nous éclaire. Elle libère, elle éclaire, elle transforme. Seigneur, c'est vrai, parfois, elle fait mal. Mais c'est toujours pour guérir.
Amen.
Elle blesse, c'est vrai, mais c'est toujours pour guérir.
Toujours.
Toujours pour enlever, ôter ce qui n'est pas ta gloire. C'est mais c'est toujours pour y apporter la vie, le pardon, la guérison,
toujours.
La vérité, Seigneur. Mmh. Alléluia. Donne-nous d'être de ces évangélistes, Alléluia. Ces oracles, ces hommes et ces femmes qui sont des canaux de Dieu, non pas d'un homme, d'une femme, d'une église, des canaux de Dieu pour communiquer la parole de Dieu et non pas les dernières doctrines en vogue ou les dernières expériences en vogue, mais la parole de Dieu qui demeure éternellement. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ta seule gloire. Amen.
Amen.